1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air? Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, bonjour amis auditeurs, salut Ghislain, salut Ariane.
Bonjour.
Et bonjour Anne Yvonne.
Bonjour, merci de me réaccueillir, c'est super.
On est ravis. Est-ce que vous êtes bien avec nous?
Ah oui, je me régale.
Bon, vous aimez notre générique?
Je trouve plutôt fun. La chanteuse, je ne me souviens plus vraiment de son nom, je crois que c'est Edith quelque chose, mais je n'en suis pas très sûre, mais je trouve ça plutôt amusant et tonique.
C'est l'Edith Piaf, non, plutôt on va dire la Sheila allemande.
C'est la Sheila allemande, c'est Gitte.
Voilà.
Gitte.
Gitte.
Yeah.
Deuxième émission avec vous. Alors, on a décidé de l'intituler le personnel et politique. Alors, c'est assez large, mais on va parler de différentes choses, et notamment on a envie de commencer par les structures familiales, qui sont quand même en pleine mutation. Et je vous propose d'écouter un premier son avec quelqu'un qu'on aime bien ici, qui est anthropologue, qui s'appelle Maurice Godelier.
Ah oui.
Vous connaissez ?
Oui, je connais même sa fille.
Ah.
C'est un type intéressant.
Ouais.
Très, très viril, hein, très macho.
Oui.
Hein.
Alors, on ne le connaît pas personnellement, nous,
non,
mais
nous,
on connaît ses écrits,
ses conférences.
Ses conférences.
Moi aussi, mais oui. Il est très. C'est un omnipotent quand même.
On l'écoute et on en parle après.
Oui.
La famille est en train de bouger, enfin la parenté ou les systèmes de parenté sont en train de bouger partout et en Europe depuis un certain temps. Vous avez. Un système de parenté, c'est quoi? Des rapports de parenté, c'est deux axes. Hein, c'est. De la filiation, de la descendance, quoi, et des alliances. Hein. Bon. On assiste à quoi depuis une vingtaine d'années? On assiste à une sorte d'ouverture et de flexibilité du point de vue des alliances, avec par exemple le divorce par consentement mutuel a créé des centaines de milliers de familles recomposées, au sein desquelles une parenté sociale s'élargit et la parenté biologique est toujours présente, mais elle est restreinte. Donc il y a un mouvement qui donne de plus en plus d'importance au rôle de social de parents, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être génétiquement relié à des enfants pour se comporter comme un père ou se comporter comme une mère. Donc vous voyez déjà une ouverture en France qui se détache de la base biologique et de l'héritage génétique.
SLP, l'émission qui vous trouve le cul.
Alors ça, c'est un de nos jingles.
Préférés, s'il vous plaît.
Ah, je le trouve très fun.
D'accord. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, les réflexions de Maurice Godelier sur l'évolution des structures familiales, des rapports de filiation? Alors nous, c'est des questions qui nous concernent directement, nous, gays, lesbiennes. Comment ça vous fait réagir? Comment vous voyez les évolutions de la société par rapport à ça, à la nécessité d'acquérir de nouveaux droits, peut-être, pour certaines personnes? Vous êtes engagé là-dedans?
Oui, absolument. J'ai toujours été. J'ai toujours été favorable à l'homoparentalité. J'ai toujours été favorable au mariage gay. J'ai toujours été favorable à l'adoption des enfants par des couples homosexuel, donc et toujours, c'est quelque chose que j'ai ancré en moi depuis très longtemps, depuis l'époque où j'avais adhéré au phare dans les années 80, et j'avais pas pu adhérer à Psyché Po parce que je les trouvais, les lesbiennes, excusez-moi, je l'ai trouvé quand même très raide.
Mais j'étais pas née, hein, y a pas de problème. Voilà.
Merci de m'aider, de rappeler comme ça mon âge, c'est sympathique, j'adore. Mais
j'étais pas née en 74, c'est facile.
Ah, c'est bien. Et moi j'avais 19 ans et je peux vous dire que il y avait des débats, il y avait des discussions formidables, c'était au pavillon populaire à Montpellier et on s'enfermait toutes les femmes, toutes les filles comme ça pour discuter et avec les filles de Psyché Po, grosso modo. Coucher avec un garçon, c'était presque une violence, quoi. Hein. On pouvait pas trop en parler. Il fallait pas en parler. Et on était un certain nombre de femmes à revendiquer une indépendance, une autonomie sexuelle, hein, et à tout point de vue. Et c'était grosso modo, c'est comment tu peux coucher avec un homme, quoi. Hein.
Une forme de traîtrise.
Non, je pense pas que ce soit une forme de traîtrise. C'était une affirmation très forte d'une identité sexuelle revendiquée et que, grosso modo, coucher avec un garçon, c'était accepter une soumission.
Mais oui, voilà, coucher avec l'ennemi, quoi.
Voilà, coucher avec l'ennemi.
Mais c'est dans ce sens-là que je voulais dire.
Et donc, ça, alors qu'au phare, d'abord, il se posait pas la question de coucher avec les filles et, pour un chat quand même, hein. Donc c'était pas dans la question. Alors que pour les filles de Psyché Po, la question de coucher avec un garçon était posée. Pour les homos, la question de coucher avec une fille ne l'était pas. Enfin, je vais peut-être un peu loin, mais il y avait une espèce d'affirmation joyeuse du fait qu'ils étaient homos. Mmh. Et on était avant 81, c'est-à-dire, je rappelle qu'à cette époque, l'homosexualité...
était punie pénalement.
Oui. Était punie pénalement, et c'était pas simple. C'était pas simple. Hein. Et à l'armée, c'était plus que compliqué. C'était l'asile psychiatrique, quand même, hein, pour les garçons sous les drapeaux et qui étaient identifiés comme homosexuels. Enfin, moi, j'ai des souvenirs très forts de ça, quand même. Hein. Donc, c'est une lutte qui n'était pas anodine et qui n'était pas que intellectuelle. C'est pour ça que quand Godelier dit les structures familiales évoluent, oui, c'est vrai, elles s'ouvrent, elles se redéfinissent. Pour autant, le drame, je crois, mais je me trompe peut-être, pour les garçons et les filles gays ou lesbiens, quand ils se font mettre dehors de chez eux, parce que c'est quand même encore une réalité aujourd'hui, la rupture familiale, c'est vraiment pas quelque chose de facile à vivre, ni dans l'instant où elle se produit, ni dans les suites et les conséquences de ce qui est vécu.
Est-ce que c'est quelque chose que le politique doit prendre en charge?
Oui, absolument. Le politique doit le prendre en charge. On ne peut pas laisser des jeunes, mineurs ou majeurs, abandonnés par leur famille. Et ça, c'est difficile. Parce que mine de rien, la famille, c'est quand même le dernier endroit, même quand vous êtes fâché avec vos parents, c'est quand même le dernier endroit où on réaccueille. Et les familles recomposées, pour ça, c'est sympathique, c'est bien, c'est très télégénique. Hein, ça se passe très bien dans les films à la télé et sur les grands machins, mais dans la vie réelle, pour un garçon ou une fille qui sont mis dehors de chez eux ou qui se retrouvent à faire le tapin, c'est pas forcément très facile de se dire qu'il n'y a pas d'endroit où aller que les copains. Parce que certaines fois, les copains, c'est formidable au début, puis des fois, ça se délite. Donc, d'une certaine manière, je crois que la famille, c'est quand même quelque chose qui doit rester et qui peut rester. Alors, elle peut être monoparentale, elle peut être bisexuelle, elle peut être monosexuelle, mais c'est la famille. Mmh. Il y a les amis, il y a la famille, il y a les connaissances, et ça se recompose au fil de la vie. Mais d'affirmer, comme le fait Godelier, que finalement tout ça n'est qu'une redéfinition de l'humanité, oui.
Mais il le fait d'un point de vue d'anthropologue. Après, effectivement, il y a nécessité pour que ces structures-là puissent...
Fonctionner avec un cadre légal, voilà. Il faut qu'également elles aient une place.
C'est là
où le politique a un rôle, mais il faut définir la nature de la flexibilité. Et il faut définir la nature du devoir de chacun. Et ça, c'est le rôle de la loi. Et la loi n'est pas la coutume. Et ça, c'est quelque chose qui est... La loi n'est pas la coutume, mais la loi ne définit pas la coutume. Elle fixe des règles et des normes, et la jurisprudence peut les construire, les déconstruire et les faire évoluer.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, la société est presque, en France, presque plus en avance que ne l'est le politique sur ces questions-là?
Ah, mais complètement. Complètement. Mais il n'empêche qu'il y a encore des jeunes et des moins jeunes en souffrance. Mmh. En matière d'homosexualité, filles ou garçons. Hein, il y a quand même encore une souffrance et elle n'est pas anodine. Mais c'est banalisé, notamment dans les milieux, je crois que dans tous les milieux. C'est plutôt une question de comment dire, je ne sais pas trop si c'est une question de rural urbain ou de... Mais c'est pas réglé. Voilà. Et ça ne sera réglé que quand la loi s'en mêlera. La coutume ne le réglera pas. C'est parce que vous pouvez avoir des périodes de récession, vous pouvez avoir des périodes, on est en train de le vivre d'ailleurs, on l'a vécu récemment, et dans les périodes de récession, les gens se referment et se replient. C'est pour ça que je trouvais que le phare était plus sympathique que les Psyché Po, parce qu'au moins le phare, ils étaient joyeux.
Alors, on a un son sur le phare. Si tu peux le retrouver, Tao, ça peut être bien. Je pense que c'est le moment de l'écouter.
Ah oui, ça va me faire plaisir.
L'après 68 est un formidable appel d'air. Des militantes féministes prennent la parole. Et la sphère intime envahit bientôt le débat public. En 1970, naît le MLF. Et dans son sillage, 6 mois plus tard, le phare. Front homosexuel d'action révolutionnaire.
Je pense qu'il fallait être très politisé pour avoir entendu parler du phare qui un jour est né d'une émeute contre Ménie Grégoire et ensuite se réunit tous les jeudis soirs aux Beaux-Arts.
À ce jour-là, il y avait un groupe de femmes du mouvement de libération des femmes. On n'était pas énormément, on devait être une douzaine, une quinzaine. Et on avait décidé d'aller à cette émission pour la perturber, ce qu'on a fait tout de suite.
Qui vous dit bonjour à tous. Vous entendez la salle Pleyel remplie à craquer et qui fait beaucoup de bruit car nous venons d'avoir depuis une demi-heure une discussion absolument passionnée et passionnante sur l'homosexualité que nous allons continuer sur l'antenne.
Donc on a commencé à pousser des petits cris, enfin je sais pas, des sifflets, etc.
Alors écoutez, imaginez que l'homosexualité devienne un modèle social. Nous serions très vite par produit, enfin, je sais pas, il y a tout de même là une norme de vie. Il y a tout de même une négation de la vie et des lois de la vie dans l'homosexualité. Je pense tout de même qu'on peut répondre ça sans blesser personne, il me semble. À vous la salle.
On s'est levé et on a dit des choses de la salle, ce qui était absolument pas attendu, jusqu'au moment où ils ont été obligés de, tout simplement...
dit qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la foule a envahi la tribune et que des homosexuels...
Liberté ! Liberté !
Des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes... Écoutez, je suis un peu désolée du bruit de la salle qui ne nous permet pas de continuer.
Le soir même, les perturbatrices se retrouvent avec quelques garçons dans un appartement parisien. Un jeune étudiant, alerté par le coup d'éclat, les y rejoint. Il s'appelle Guy Hockenghem. Il deviendra très vite la figure légendaire du phare.
C'était de créer des situations qui soient des situations de provocation, des situations d'insolence, puisque de toute manière, à l'époque, les journalistes ne supportaient pas le phare ou n'en parlaient pas. L'extrême gauche détestait gravement ces homosexuels qui se prétendaient révolutionnaires, alors que l'homosexualité, n'est-ce pas, c'est la vie privée, c'est des choses qu'on fait chez soi. On va pas aller polluer le débat politique de gauche et d'extrême gauche avec ces histoires de tantouses et de pédales.
Les pédés dans la rue, les pédés dans la...
Et il y avait les premières drag queens.
Oui. Déjà à l'époque.
Mais oui.
Les gasolines.
Voilà, mm-hmm. Les gasolines. Ça, je me souviens bien de ça. Et elles étaient décapantes quand même. Hein. C'était vraiment terriblement incroyable. Ça renvoyait à la fin du 19e, justement, sur les incroyables. C'était une espèce de retour invraisemblable, mais non caché, quoi. Non caché, ça, c'était plutôt ça. Il y avait en même temps, à l'époque, je ne sais pas si c'est exactement la même période, mais pas loin, en Allemagne, il y avait un cinéaste allemand, Werner Fassbinder, qui faisait des films hallucinants. Aujourd'hui, ils n'auraient pas le visa de sortie. Hein.
Effectivement, c'est des choses qu'on a un peu perdu de vue, malheureusement. Alors,
oui, moi, j'aimerais bien qu'on revienne à cette espèce. Films, hein. Oui, ça fait du bien d'avoir ces films. Quoi. Et c'était d'une crudité extrême, mais d'une violence politique. D'une violence politique et pas d'une violence complaisante ou romantique. C'était l'affirmation que l'individu existe et qu'il existe homme ou femme et qu'il existe dans sa sexualité telle qu'il en a envie, à condition qu'il s'assume et que la société l'accepte. Alors, et l'aide à s'assumer, parce que et la force de Ménie Grégoire, et moi je sais bien qu'on la moque, on l'a beaucoup moquée, et là elle a fait ce qu'elle a pu, mais c'est aussi une femme qui avait ses propres convictions, faut l'accepter. Et quand elle parle de la norme, il faut quand même voir que quelque part elle assumait aux yeux de tout le monde le fait de dire, ben oui, la sexualité est une norme, mais qui parlait de sexualité avant? Personne. Ménie Grégoire, mine de rien, elle a été la première à parler de sexe à la radio, publiquement. Personne n'en parlait avant, c'était un sujet tabou. Moi, je lui reconnais ça. Hein, c'était, elle a dit, elle, voilà. Il y a eu, bon, après, il y a eu
cette phrase culte, quand même, quoi. On peut dire qu'il y a une négation de la vie dans l'homosexualité sans pour autant blesser qui que ce soit. C'est une phrase culte, quand même.
Ah, mais c'est magique. C'est une autre époque.
Incroyable.
C'est une autre époque.
Oui,
c'est
ça,
c'est
révélateur d'une époque. Quelque chose de cet espace-temps. Oui. Voilà, oui. Voilà.
Ça rend, mais c'est d'un autre côté, on a une bon, on est 30 ans après. Moi, j'ai le souvenir des films comme Magnolia ou comme Philadelphia. Bon, qui fabrique à la fois de la douleur dans le romantisme et quelque part on revient au 19e. Là, on est dans une espèce de brutalité politique et claire avec des gens qui assument ce qu'ils sont et qui ont le courage de le faire. Et je ne voudrais pas défendre Ménie Grégoire, mais quelque part, elle a quand même été la première personne à parler de cul à la télé, à la radio, quoi. Et ça, on l'oublie. Donc, mine de rien, ça lui courage, quoi. Hein. Ouais. On avait la mère de Ligne et Ménie Grégoire.
C'est pas vrai, ça.
La provocation, l'insolence comme moyen d'action politique, vous y croyez toujours ?
Oh, bah, je pense que... Moi, je ne sais pas le faire.
Oui.
Je ne sais pas le faire,
mais
c'est pas ma nature.
Vous reconnaissez
mais
à d'autres le droit de le faire.
Je trouve ça formidable. Alors non, je n'ai pas aimé Act Up. Il y a une période... du mouvement homosexuel masculin que j'ai trouvé détestable, c'est celle d'Act Up, qui était dans une espèce de revendication excessive ou outrancière et qui décrédibilisait complètement.
En quoi excessive ? Pourquoi vous la trouviez
Et quelle
trop...
période ? Parce que Act Up, c'est pas passé, ça existe encore.
Non, mais alors c'est la période, comment dire, c'est les débuts du sida. Faut pas non plus quand même passer sous silence la question du sida, hein, donc qui est une sexualisation de la société par la mort des personnes, quand même, hein. Qui sont devenus, c'est-à-dire la mort est devenue cruciale. Et ce qu'il faut aussi dire du mouvement homosexuel, c'est sa force à forcer la main de l'establishment pour dire qu'il faut que ça se soit, que ça doit se soigner, que ça devra se soigner.
Oui, parce que voilà, c'était une question de vie ou de mort.
C'est une question de vie ou de mort. Et s'il n'y avait pas eu les homosexuels aux États-Unis pour utiliser, comment dire, Internet qui était balbutiant et débutant, et pour forcer la machine, et des grandes manifs à New York, pour forcer la machine, le monde de l'industrie du médicament et de la chimie, à s'intéresser à ce sujet-là et à pas uniquement considérer qu'il devait mourir dès qu'on avait le syndrome de Kaposi, là, c'est voilà, le déclassement, l'isolement, l'abandon, la relégation dans le noir de la vie et dans le noir de la ville. Et ça, le mouvement homosexuel aura fait un grand pas pour se sauver lui-même, aura fait avancer considérablement la notion de rapport aux médicaments et de rapport à la maladie. Ça, moi, chapeau. Bravo.
Alors, en quoi Act Up serait allé trop loin, d'après vous ?
Ah non, Act Up, c'est autre chose. Act Up, il y avait une espèce de... C'était un petit peu comme Psychépo. Pour moi, hein. C'est une espèce de posture a priori et par définition violente. Je ne saurais pas trop comment le dire. Je suis un peu désarmée là, mais je sais que j'ai ressenti personnellement une violence extrême face au type d'acteur quand il débarquait aussi d'action, par exemple, pour insulter tout le monde, avec beaucoup de violence en disant que c'est que ce bazar, on n'en a rien à faire. Moi, j'ai des souvenirs très forts et très durs. Hein, et le site d'action a beaucoup perdu, je trouve pas le mot.
Mais si, c'est ça, il a beaucoup perdu. C'est-à-dire qu'après l'intervention du deuxième site d'action, il n'y a plus d'autres manifestations.
Puis personne n'a voulu. Quoi, hein, et s'il n'y avait pas eu l'amant de Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, pour le porter avec une force énorme, Éline Renault.
C'est des gens à qui on doit énormément. C'est
Berger,
Renault, Liz Taylor, tous ces gens-là.
C'est vraiment des gens à qui l'on doit beaucoup, et le mouvement homosexuel américain. Qui ont combattu contre l'industrie chimique américaine pour imposer qu'on s'intéresse à cette maladie nouvelle qui était en train de naître et qu'on trouve des médicaments. Mmh. Et ça a été une force énorme.
Bien sûr, mais d'ailleurs, Éline Renault le dit très bien, c'est-à-dire dès qu'il y a des grandes stars qui se sont engagées, comme l'action de Lady Diana ou comme Madonna ou comme
Taylor,
ça a débloqué plein de choses.
Oui,
et pour en revenir à Act
Up, je suis plus...
voudrait parler.
Non, mais voilà. Parce qu'en fait, Act Up, je trouve qu'en effet, c'était très violent, c'était très provocateur, mais en même temps, ça pointait des choses que personne pointait. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une bien-pensance, il y a quelque chose qui est très lisse, et Act Up, c'est un peu le grain de sable qui le fait avec une violence incroyable, mais ce sont des actions qui marquent. Mais si, ça sert justement, ça sert à réveiller et à pointer des choses au moment où on s'endort ou au moment où on est dans un espèce de ronron. Les actions, la capote sur l'obélisque, masques, les gens.
Ça, c'était sympa.
Les gens qui se.
Ça, c'était sympa.
Les daïnes.
Voilà, les daïnes. Voilà,
oui, mais ça, oui, mais ça c'est des trucs sympas. Mais quand
incroyable.
Là où ils ont été trop loin, c'est quand ils ont fait irruption sur le site Action.
Oui, avec une violence.
Ils se sont décrédibilisés à ce moment-là parce qu'ils ont franchi. C'est pas une question de ligne jaune, mais. Mais je crois vraiment que le mouvement LVMH, enfin, qui n'existait pas LVMH, bravo.
LVMH, mon Dieu. Ça vaut Zadig et Voltaire, là, attention.
Pas mal, hein. Pas mal. Et voilà, mais excusez-moi de vous dire, il y a la starification, et on est en plein dans un monde de starification, mais je maintiens que mon opinion, elle est que quand même le mouvement homosexuel américain, que ce soit à San Francisco ou à Los Angeles ou à New York, a été fondamentalement, plus que le ferment, a été le vecteur du changement.
Oui,
par rapport
parti,
à ce ça.
C'est parti de là. Hein.
C'est parti de là, et la starification, c'est derrière. Donc on les salue. Mais, et le mouvement homosexuel français, hein, des hommes homo, hein, n'était pas assez fort en France, n'était pas assez fort. Alors peut-être que la société française était encore pas prête à l'accepter, peut-être que Guy Hockenheim avait plus assez de force personnelle, hein, j'en sais rien, mais honnêtement, les gays américains ont révolutionné la sexualité homosexuelle et son acceptation. Le fait que les grandes firmes pharmaceutiques s'y intéressent et s'y engagent, parce qu'il y a eu une pression politique qui est considérable. C'est pour ça que le personnel, la sexualité est fondamentalement quelque chose de politique. Fondamentalement. Et la question féminine, la question des femmes, la place des femmes dans une société, la liberté du corps des femmes, donc qu'elles doivent pouvoir maîtriser, relève du même scénario.
Ouais.
C'est de la politique
pure.
Je
propose qu'on se passe de pause musicale et qu'on écoute le dernier son.
Je suis d'accord, on allait partir là-dessus. Alors, le son suivant, s'il te plaît, Ghislain Tao.
Oui, d'accord.
C'est avec un chiffre dans le titre.
Voilà, on va l'écouter.
Fais-moi l'amour.
Non, je ne crois pas, non.
Pourquoi ?
Pas envie.
Attention, Jean, au cinéma, une réflexion comme ça, ça passe. Mais dans la vie, elle peut te coûter très cher. En mai dernier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné un homme à 10 000 euros de dommages et intérêts à sa femme. Celle-ci lui reprochant d'avoir manqué à ses devoirs conjugaux pendant plusieurs années. Et le sexe, dans un couple, c'est sacré.
Le droit ne le prévoit pas expressément. Il ressort des dispositions du Code civil, effectivement, qu'il y a une communauté de vie, et au sein de cette communauté de vie, il y a forcément une communauté de lit. Et en réalité, si un tel exemple est très rare pour être souligné, il y a des cas où le sexe est saisi par le droit au sein, enfin, à l'intérieur du mariage.
Infidèle, non-vierge ou même impuissant, garde à vous, les juges ne laisseront rien passer. Des mariages ont même déjà été annulés sur ces motifs. Mais soyons honnêtes, le sexe est important, voire essentiel dans un couple. Et ne pas se faire désirer ni toucher pendant des années a dû blesser cette dame. Le vrai problème, c'est surtout les 10 000 euros qu'elle a touchés.
Si la justice quantifie, là, parce qu'elle a eu une approche sur la quantité, vous voyez, mais on peut imaginer aussi qu'elle ait une approche sur la qualité. Pourquoi pas, on peut tout imaginer. Et quelle est la position du juge par rapport à ça? Quelle est la formation du juge par rapport à ça?
Sachez-le, votre vie intime peut être décortiquée par la justice. Mais rassurez-vous, messieurs, s'il y a un droit d'obtenir des relations sexuelles consenties, bien sûr, pour l'instant, aucune obligation de satisfaire la partenaire. Mais qui sait, peut-être, un jour.
Vous aviez eu vent de cette affaire?
Pas du tout.
Ah bah c'est dommage, hein.
Pas du tout.
Elle est quand même croustillante.
Elle est quand même croustillante. La notion de devoir conjugal, bon, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que pendant des millénaires, le devoir conjugal était une obligation des femmes.
Oui.
C'est la seule petite bonne nouvelle microscopique de cette histoire que je trouve terrifiante, quoi, qu'on arrive à ce que la sexualité devienne une histoire de justice.
Bon, faut espérer qu'elle reste anecdotique.
Oui.
En même temps, c'est super intéressant parce que c'est la justice qui disait que voilà, dans la contractualisation du mariage, le sexe en fait partie. Donc une autre mouvance féministe qui n'a pas forcément droit au porte-voix,
le porte-parole.
Parfois, surtout quand on lit King Kong Theory et qui pose la question, voilà, de ce compromis où dans une certaine bourgeoisie, être entretenu et autoriser quelques faveurs sexuelles, c'était une forme de contractuelle, quoi, dans les relations.
En gros, tu dis que la justice nous dit que le mariage, c'est la prostitution légale.
Je rappelle qu'il y a des gens qui disent ça, ouais, et que ça donne à réfléchir.
Le mariage, c'est un contrat dans lequel, dans la sexualité fait partie. C'est une. Mais il faut voir aussi que le mariage.
Dans le texte.
Oui, oui. Et il faut voir aussi que le mariage a été, au début de l'humanité, pas de l'humanité, mais au début des sociétés humaines organisées, a été une manière de protéger les femmes. Hein. Il ne faut jamais l'oublier. C'était aussi une manière de protéger les femmes d'agressions répétées, de mal en rut, qui, comme chacun sait, ne maîtrisent pas leur sexualité, les hommes, bien sûr. C'était une boutade. Mais, et qui se retrouvaient avec des enfants, comme ça, et dans une solitude extrême, et avec un devoir. C'est-à-dire, une femme qui met au monde un enfant, elle se retrouve dans une situation de devoir l'alimenter toute seule. Or, un bébé, il naît, avant d'être autonome, il faut 12, 15, 20 ans. Plutôt 20 aujourd'hui que 12. Et donc, biologiquement, quelque part, le mariage, c'est-à-dire la notion de contrat entre un mâle en rut et une femelle en chaleur, j'exagère
définitivement,
c'était une protection de la femme. Que ce soit devenu ensuite un enfermement est autre chose.
Oui, hein, voilà, c'est-à-dire que là, on parle d'une décision de justice qui a eu lieu il y a quelques mois.
D'accord, oui, mais c'est sidérant.
Et qui dit que, on doit avoir des rapports sexuels dans le mariage, sinon, on paye.
Oui, si quelqu'un porte plainte. Mais vous savez, il y a aussi un mouvement qui est apparu depuis quelques années de gens qui affirment qu'ils sont asexués.
Oui, bien sûr.
Et voilà, c'est quelque part, c'est asexuel, aussi une forme de liberté. Voilà, et je suis asexuel, je suis asexué. J'ai un sexe, mais je ne m'en sers pas. Ouais, je ne m'en sers pas sexuellement. C'est quand même très nouveau, ça.
Oui, oui, bien sûr.
Est-ce qu'il n'y a pas nécessité, du coup, de faire évoluer le contrat, le mariage sous d'autres formes, justement? Et alors,
mariage,
il y a
est
plein
un
de
contrat.
Possibilités. Oui, c'est un contrat, mais qu'est-ce qui comporte ce contrat-là?
Oui, quels articles du Code
quel
civil
droit,
sont
quel
lus
devoir,
aux époux, etc.
C'est peut-être, il faut se repencher là-dessus, non?
Oui, mais d'ailleurs, je crois que, en tout cas en France, régulièrement, depuis les années 60, la notion même de mariage a évolué. Moi, j'ai été maire adjointe de Montpellier pendant quelques années. J'ai marié des gens. Mm-hmm. Et on lit un texte, là, il y a une partie qui est très normative, hein, qu'il faut absolument lire, qui rappelle les droits et les devoirs. Et la notion, par exemple, de parentalité conjointe, finalement, c'est assez récent. Oui. Moi, quand j'ai passé les concours en 74, j'avais passé un concours d'école normale. École normale, on est fonctionnaire. Dans les dossiers des garçons étaient bleus, les dossiers des filles étaient roses.
Oui. Comme c'est original.
Et les garçons allaient à Ulm et à Saint-Cloud, et les filles allaient à Sèvres et je ne sais plus très bien, Fontenay. Aux roses, d'ailleurs. Voilà, donc, comme quoi, de temps en temps, la réalité dépasse la fiction. On boucle. Et dans les dossiers des filles, roses, il y avait un papier en plus. Et c'était marqué, pour les femmes mariées, autorisation du mari.
Et ça date de...
Et c'était en 74. Mmh. Et ça a été aboli quelques années après. Je ne sais pas si c'est Mitterrand ou Giscard, mais c'est à la fin des années 70, quoi. Mmh. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, ça fait partie des choses qui
m'a... Il y a des archaïsmes dans la loi encore, hein. Je crois que...
Les pantalons...
Exactement.
Oui, mais ça, c'est plutôt... On le sait depuis toujours et depuis longtemps, et aucun ministre a jugé utile. Elle est napoléonienne, la loi. Ça, c'est anecdotique, je trouve. Alors que ça... Or, le droit évolue constamment, et le droit construit le droit. La notion d'autorité parentale, elle est récente. Oui. D'autorité parentale conjointe, le fait que le domicile de la famille, du couple, ne soit plus déterminé par le domicile du père, pas du mari, pas du père, du mari, c'est assez nouveau et c'est la raison pour laquelle il fallait autorisation du mari, parce que comme le domicile conjugal était défini par le mari et comme par ailleurs les filles qui faisaient ce concours devenaient fonctionnaires, c'est donc l'État qui prenait le pouvoir sur le mari.
Et bien voilà, donc, on est
bouclé.
Je vous coupe, on est au bout de la deuxième émission déjà. On se retrouve.
Je suis navrée.
Eh ben,
mais non,
on en a encore deux devant
ah,
nous.
Ah merci.
On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.